12h-13h30, les midis de culture. Marie Sorbier.
Bienvenue à toutes et à tous dans les midis de culture. À 13h, je recevrai Mina Cavani pour son seul en scène autour de la poétesse iranienne Forour Farozad, actuellement à voir au Bouffe du Nord à Paris. Mais autour de cette table, vous le savez, c'est la critique qui ouvre nos agapes. Au menu du jour, Is This Thing On de Bradley Cooper et Woman and Child de Saïd Rousti. Les sorties du jour nous offrent un grand écart entre New York et Téhéran. Et nos deux critiques du jour, Charlotte Garçon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma et Charles Bosson, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes critique et documentariste. Bienvenue à tous les deux.
15 bucks cover.
To get a drink?
Hey.
Yeah.
How come she didn't have to pay 15 bucks?
She signed up for the open mic.
Look at me. I kind of look like the guy who tells you the Ferris wheel doesn't work at the amusement park.
I got a date better, man. My ex wouldn't let me touch his Magic the Gathering cards.
I'm gonna shake it up tonight. So let's put your hands together for Alex Novak.
Under pressure. T'as des rêves, papa?
Bien sûr que j'en ai.
Tu savais que j'allais mal. Tu m'as laissé tomber.
Je t'ai laissé tomber? Non, c'est toi qui t'es barré.
J'étais malheureux dans notre mariage. J'étais pas malheureux à cause de notre mariage.
J'aurais aimé avoir une punchline.
T'es génial. Enfin, t'es mauvais en stand-up, mais t'es génial. T'as un cœur en or.
Des punchlines, j'espère que nos critiques du jour vont en avoir. Vous venez d'entendre la bande-annonce du film réalisé par Bradley Cooper. Il s'agit de son troisième long métrage après A Star Is Born et Maestro. On y découvre Alex et Tess, un couple dans la cinquantaine. Le divorce n'est pas loin, mais par un de ces hasards qui rend la vie étonnante, Alex se découvre une passion pour le stand-up. Le film, comédie de remariage, se déroule à New York. Charlotte Garçon, un premier avis rapide.
Est-ce que ce micro marche? Alors, c'est pas une question que je pose à la régie. C'est effectivement le sens du titre. Puisque quand on monte sur scène, il vérifie un petit peu si ça marche. Mais évidemment, la question se pose à ce mariage qui n'en est très vite plus un, puisque le film commence sur une séparation. Et surtout, j'ai l'impression que le film porte sur l'étincelle vitale. Moi, j'ai trouvé réjouissant et j'ai beaucoup aimé que cet homme, une fois son mariage mort, le mette au caveau. Si on entend caveau comme un cabaret, une scène comme le caveau de la Huchette.
Charles Bosson, est-ce que ça vous a inspiré autant d'images?
Malheureusement, non. J'attendais beaucoup, moi, du nouveau film de Bradley Cooper. J'étais plutôt très séduit par ces deux premiers, Star Is Born et Maestro. Et je dois avouer que l'aspect comédie de remariage et film sur le couple m'a semblé un peu court.
Un peu court. Charles Garçon, peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle une comédie de remariage? Vous pouvez nous resituer peut-être le film dans un genre?
Oui, l'expression vient d'un philosophe, bizarrement, et pas d'un critique, Stanley Cavell, qui est mort il y a quelques années, et qui a beaucoup écrit sur des comédies classiques hollywoodiennes, dans lesquelles un couple commence marié, et très vite il y a une crise, il y a soit une dispute, soit pire, un divorce, une séparation, et tout l'enjeu narratif du film, c'est que le couple non pas va se rabibocher ou se remettre ensemble, banalement, mais plus refonder son union et dans un mouvement d'éducation mutuelle et aussi, bien sûr, avec un soubassement démocratique égalitaire entre les sexes. Voilà, ça c'est pour
la définition du genre. Mais donc là, est-ce qu'on est vraiment dans une comédie de remariage?
Oui, parce que les comédies de remariage incluent toutes sortes de scénarios. Ça peut être aussi des gens qui vivent ensemble au départ sans être vraiment mariés. En fait, l'idée, c'est plutôt comment on se donne un choc. Alors souvent, c'est quand même un couple hétérosexuel, justement, parce que il y a l'enjeu un peu de guerre des sexes ou de différence de vision du monde selon un sexe ou l'autre, et c'est le cas ici. Donc, une fois qu'on sait que, bien sûr, l'enjeu, c'est ils sont séparés au début, mais comment ils vont faire pour peut-être se remettre ensemble. Certes, c'est une convention, mais c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est comment les choses sont faites et qu'est-ce qui se passe du point de vue de la mise en scène.
Et alors, vous disiez réjouissant parce que ce film, ce qui vous a séduit, c'est justement l'aspect comédie, c'est le scénario. Réjouissant, ça vient d'où?
Plein de choses. D'abord, le fait qu'ils sont en train de se brosser les dents au début et elle dit juste, bon, là, c'est bon, là. je crois qu'on... Et voilà, et il est d'accord. Et c'est une espèce de quotidienneté de la séparation qui est anti-dramatique. Alors, c'est que le début. Donc ensuite, il y a tout un film. J'aime aussi le fait que Bradley Cooper, qui d'habitude joue le premier rôle dans ses films, alors, il me manque un peu parce que je l'aime beaucoup, acteur. Mais en fait, il est quand même dans les parages. On dévoilerait peut-être pas trop exactement dans quel rôle secondaire, mais il y a un drôle de décalage parce que l'acteur qu'il a choisi et qui est aussi son co-scénariste, lui ressemble. Mais voilà, donc il y a un drôle de jeu amusant. Et moi, j'ai trouvé que le film était intéressant parce qu'il était ludique et parce que surtout, plus que l'amour du stand-up, qui pour moi, c'est pas très drôle, les blagues qu'il fait. D'ailleurs, un personnage le lui dit au début, une autre stand-upeuse plus expérimentée. Mais par contre, l'amour du jeu d'acteur et du jeu d'actrice avec le jeu de Laura Dern, moi, je le sens, ça infuse tout le film. Et j'aime beaucoup la générosité de Bradley Cooper, réalisateur, dans tous ses films face à des performeurs. D'ailleurs, il choisit toujours des personnages, artistes, voilà, musiciens, etc. Parce que c'est ça qui l'intéresse, c'est le jeu d'acteur, mais aussi chez les autres.
Charles Bosson, peut-être revenir sur cet aspect du stand-up dans ce film. Est-ce qu'il a une vertu thérapeutique ?
Alors, il faut savoir d'abord que le film est inspiré d'une histoire vraie. C'est un humoriste britannique qui s'appelle John Bishop, qui était représentant pour des labos pharmaceutiques et qui, à 30 ans, a changé de vie en découvrant par hasard, alors c'est sa légende, c'est un peu comme ça qu'il le raconte, et qui se le raconte entre eux, entre humoristes. Et cette histoire a évidemment beaucoup plu à Bradley Cooper et surtout à Will Arnett, qui a été à l'origine de ce projet. Will Arnett, c'est un grand acteur de voix. Il a une voix extraordinaire, extrêmement grave. Il a commencé d'ailleurs comme doubleur au cinéma. Et récemment, un de ses plus beaux rôles est celui du personnage de BoJack Horseman, qui est un personnage de série extrêmement dépressif et en même temps très drôle. Et comme tous les acteurs de voix, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il prend un micro ou dès qu'il se met à jouer, on a l'impression que voix et corps se séparent. Il y a toujours cette espèce de dimension-là. Donc très très bonne idée de l'utiliser justement face au monde du stand-up. Donc il découvre, alors il est à New York et il va par hasard au Comedy Cellar, qui est quand même le plus grand stop de... Alors là, il y a déjà un problème de quand même documentaire, c'est qu'on monte pas comme ça un soir sur les planches du Comedy Cellar et personne n'est aussi bon tout de suite. C'est-à-dire qu'on lui dit qu'il est mauvais, mais en réalité il est excellentissime, c'est-à-dire qu'il est très à l'aise, il n'est pas pressé. Le monde du stand-up a beaucoup évolué et aujourd'hui l'aspect thérapeutique où les gens viennent raconter leur vie est presque aussi célèbre et encouragé que le monde de la blague ou de la vanne, là où effectivement il ne serait pas très fort, mais il est très doué pour raconter sa vie et la partager. Donc cet aspect du stand-up, il tourne quand même vite assez court, c'est-à-dire qu'on est vraiment un peu entre voilà, Seinfeld, qui est quand même le grand modèle d'articulation entre la comédie et le stand-up et la vie, et un côté Rocky, c'est-à-dire qu'il faut toujours... Voilà, Bradley Cooper ne peut pas penser le cinéma et le monde autrement qu'une scène qu'il faut à tout prix conquérir. Donc ce monde du stand-up, il tourne très vite, il tourne à vide. Un de ses enfants lui dit « brisé, t'es en train d'utiliser notre vie ». Ça, c'est une dimension qui pourrait être passionnante, parce qu'effectivement, tout ce qu'il sait faire, c'est raconter, c'est voler son intimité, exactement, son intimité, et qu'il le fait en public devant tout le monde. Il y a d'ailleurs une scène où il le fait devant Laura Dern, qui va causer tout un chamboulement intérieur, son ex-femme. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le film, donc cette piste-là est un peu interrompue, et commence cette fameuse comédie de dramage, ou en tout cas ce film de crise sur le couple, qui pour moi n'épouse que le point de vue masculin, c'est-à-dire qu'on est vraiment entre copains, on sent que c'est un film écrit par trois hommes qui sont passionnés par le monde du stand-up, et je trouve que le personnage de Laura Dern est un peu errant, on a du mal à lui trouver une backstory convaincante, c'est-à-dire qu'il faut aussi en faire une athlète en manque de réussite, voilà, mais le film n'a pas le temps, beaucoup de temps à lui consacrer, et le personnage s'affadit un peu et fait des espèces d'oracles que l'homme doit interpréter pour trouver son bonheur. Donc voilà, on passe dans un registre un peu développement personnel qui, moi, me perd complètement et me déçoit.
Charles Garçon, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse des personnages féminins ?
Oui, alors ça me gêne pas qu'une femme délivre quelques oracles.
Les pitis voilà. existent depuis voilà. longtemps.
Je me projette personnellement, je trouve ça assez juste. Effectivement, le personnage joué par Laura Dern est un peu sous-écrit, mais elle, en tant qu'actrice, est tellement, on a tellement, voilà, elle a une telle puissance de surgissement, je dirais, dans chaque séquence que pour moi ça fait contrepoids. Et d'autre part, j'aime beaucoup tout le traitement de la séparation en société. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'une séparation, ça emmerde, l'entourage, les amis, parce que, il faut... Est-ce qu'on va aller au week-end prévu au printemps, dans une maison qu'on partage ? Est-ce que... Voilà, toutes ces petites choses bourgeoises, disons, qu'il faut... Et puis surtout, est-ce qu'on va pas blesser l'idée du couple des autres ? C'est-à-dire qu'on a l'impression, comme ça, que se séparer, c'est transgresser, pas seulement au niveau institutionnel du mariage, mais vraiment... on dérange tout le monde autour. Et ça, je trouve qu'il le montre très bien, puisque Bradley Cooper se donne le rôle d'un des amis qui lui-même a quelques difficultés conjugales. Et là, je trouve que c'est assez drôle.
Peut-être un mot justement sur le traitement des personnages secondaires. Vous parlez de Bradley Cooper, mais en fait, ils sont entourés, ce couple, de tous ses amis. Et les personnages secondaires sont traités d'une façon particulière dans ce film-là. Ils sont bien traités.
Oui, ils sont tous en couple, que ce soit hétérosexuel ou homosexuel. Et évidemment qu'ils sont à la fois dérangés et à la fois fascinés. C'est-à-dire que quelqu'un, ces deux personnes sont presque héroïsées à un moment parce qu'ils ont réussi à franchir le pas. Donc, est-ce qu'ils ne seraient pas au contraire des précurseurs qu'il faudrait suivre, même si au départ, c'était déroutant. Bon, tout ça a l'air très psychologique. En réalité, moi, ce qui me plaît, c'est que je ne pense pas que Bradley Cooper cherche une scène, lui, en tant que cinéaste, toujours une scène à conquérir. Je pense qu'il met en scène un personnage qui cherche une scène pour rejouer ce qu'il a raté comme enjeu dans son mariage. Hein, pourquoi ça s'est cassé la figure au bout de 26 ans ? Il faut trouver une scène pour que quelque chose se rejoue. Parce que sinon, c'est trop quotidien et c'est dissous dans le brossage de dents et le quotidien. Donc il faut refaire spectacle, disons. Et ça, je trouve ça intéressant. Je ne pense pas que lui soit une sorte de personnage rutilant de cinéaste qui cherche à se faire briller. Alors c'est vrai qu'il a joué Leonard Bernstein avec un faux nez dans Maestro, son film de 2023, mais vous vous souvenez que dans ce film, Carey Mulligan jouait la femme de Leonard Bernstein et qui en fait venait au premier plan et était révélée comme quelqu'un de très important. Donc je ne pense pas non plus qu'on puisse lui faire le procès de, voilà, un peu de misogynie.
Non, mais bon, pour moi, c'était vraiment pas un procès de misogynie, mais plutôt la frustration de sentir un cinéaste qui aimerait s'aventurer dans une grande forme de mélodrame, je pense très, soit années 70, un peu à la Cassavette, soit plus récente avec James L. Brooks. Je sens vraiment cette volonté d'aller vers ce type de personnage, mais toujours rester en surface et être un peu limité par des phrases. Moi, je pense vraiment au développement personnel, c'est-à-dire qu'on lui dit tu perds ton magnétisme. Voilà, c'est ça qui est grave, c'est de perdre son magnétisme. On lui dit donne-toi la permission d'être toi-même. Voilà, le film délivre comme ça des espèces de lieux communs. Après, voilà, Bradley Cooper est intéressant comme cinéaste parce que l'image du film est extrêmement lisse, un côté très HBO, d'ailleurs, qui a beaucoup filmé le stand-up dans les séries, dans les specials, dans les films. Mais avec son chef-op Matthew Libatti, qui est le chef-op d'Aronofsky, il s'attarde. Et je pense qu'aujourd'hui, tout simplement pour bousculer un peu le langage cinématographique convenu, imposé un peu par les séries, où en gros on filme tout dans tous les axes et puis on se débrouille au montage, là on s'attarde, on traîne, il y a quelques très très beaux points de montage ou plans, notamment un moment où on voit le couple de loin dans la cuisine, on ne sait pas s'ils sont en train de s'engueuler ou de se rabibocher, on coupe et on passe sur les bougies du gâteau des enfants, flou, qui prend les deux tiers du cadre. Voilà, en fait c'est plein d'inventions plastiques et il filme avec génie, ça c'est, je crois qu'il y a un truc américain dans le stand-up, cette manière qu'on a de monter sur scène et de surprendre les gens. Il y avait une série française qui s'appelait Drôle de Fanny Herrero qui était plutôt bien construite, assez sympathique, mais où les scènes de stand-up étaient assez catastrophiques parce qu'on sentait qu'elles étaient jouées et qu'on demandait au public de rire. Là, on voit qu'il y a une aisance pour montrer ce monde-là qui est tout à fait naturel. Mais je reviens au stand-up et à l'origine. John Bishop avait fait son spectacle, ça s'appelait Stick Your Job Up Your Arse. C'est-à-dire, voilà, on envoie son travail, vous savez où. Et le problème, c'est qu'ici, le travail de Bradley Cooper est complètement ellipsé. Alors, ça crée un effet de modernité, mais un peu superficiel. C'est-à-dire qu'il arrive toujours en costume. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il fait. Cet aspect-là du film est complètement délaissé. Et John Bishop faisait quand même des blagues sur l'apparition des premiers poils gris pubiens de sa femme. Hein, donc, le côté couple et le vieillissement ensemble du couple était quand même beaucoup plus charnel et beaucoup plus nuancé.
Peut-être un tout dernier mot. Est-ce que Bradley Cooper s'initie à un film new-yorkais ? Est-ce qu'il a voulu faire aussi son film sur New York ?
Oui, et c'est pour moi, du coup, c'est une petite forme. C'est-à-dire que pour moi, il cherche pas à faire un grand film. Et pour lui, je pense qu'il associe la côte Est avec la possibilité d'une petite forme. Il associe aussi le stand-up avec ça. Et au cœur de ça, c'est quelle énergie vitale, quoi. Et quelle petite flamme. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce soit Une bataille après l'autre, que ce soit Marty Supreme ou que ce soit celui-ci, alors les deux autres plutôt dans la grande forme, finalement, c'est cette question d'un personnage qui cherche son énergie vitale, quoi. Ouais, comment la retrouver, comment l'étincelle peut revivre.
Easy Thing On de Bradley Cooper sort en salle aujourd'hui. À Alors, vous avez reconnu cette petite virgule coup de cœur aujourd'hui, c'est pour Charles Bosson, parce que je crois que vous avez passé une nuit un peu particulière et que vous voulez nous en parler, Charles.
Et oui, car le voilà, Marie, le Scream nouveau est arrivé, le septième volet des aventures de Sidney Prescott, Neve Campbell et Gail Weathers, Courtney Cox, les deux dernières survivantes des meurtres perpétués par le tueur en série Ghostface dans la ville fictive de Woodsboro. Ce nouvel opus est écrit et réalisé par Kevin Williamson, qui est le scénariste des premiers films et co-créateur avec Wes Craven de la saga, qui reprend ainsi les commandes, c'est en tout cas ce que pouvaient espérer les fans. Le film a été privé de projections de presse, mais événementialisé dans de bruyantes avant-premières de minuit qui ont eu lieu hier avec chauffeurs de salle, distribution de masques, photocall avec le tueur masqué. J'y étais, j'ai eu mon selfie, laissez-moi vous dire que j'étais absolument ravi d'y aller, tant le premier film de 1996 et une couverture mythique des Cahiers du cinéma numéro 515 de l'été 97 ont compté dans ma formation cinéphile. Mais à 3h du matin, seul sur le vélo qui me ramenait chez moi, je me demandais même si le film avait eu lieu. Il commence assez fort, dans la maison du premier Scream, découpé en appartement Airbnb pour couple en manque de sensations. On y retrouve les reliques du premier film et vous recevez même un appel du faux tueur à la voix de canard qui vous demande quel est votre film d'horreur préféré, avant de vous rappeler de ne pas oublier de laisser 5 étoiles sur TripAdvisor si le séjour vous a été agréable. Le jeune couple est ensuite délicieusement trucidé à coups de poignard de chasse, provoquant les cris de joie extatique de la salle. Passé ces 5 premières minutes fortes en sensation, la franchise a toujours eu l'art du pré-générique, Scream 7 expédie son programme et semble avoir été entièrement conçu pour satisfaire l'actrice et productrice Neve Campbell qui s'était plaint de se voir proposer de petites apparitions mal payées dans les deux derniers volets. Les frères et sœurs des épisodes précédents, joués par Jasmine Savoy Brown et Mason Gooding, sont donc expulsés au bord du cadre et le film, comme un zombie, rejoue une nostalgie un peu feinte, son catalogue de gestes, de crimes, de hurlements. Le vrai criminel, c'est le sound design. Pour se conclure sur un éloge très convenu de la solidarité entre les héroïnes et deux ou trois invraisemblables banalités sur les deepfakes et les dangers de l'intelligence artificielle.
Bien sûr.
Le film ne fait donc malheureusement jamais le poids avec de grands gestes de cinéma de genre contemporain que seraient Évanoui de Zach Cregger, Bring Her Back des frères Philippou ou les deux formidables Smile de Parker Finn, des films qui tous payent leur tribut avec beaucoup plus d'imagination et d'ivresse aux géniales et inoubliables déconstructions méta de l'immense Wes Craven.
Merci Charles Bosson, je vois que Charlotte vous a écouté bouche bée, je suis sûre qu'elle va courir voir Scream 7.
J'ai noté les films d'horreur à voir, puisque je n'en ai pas encore vu.
Très bien.
مهناز دو تو بعد از ازدواج علاقت از دست میدی
اگر ناراحت نمیشی من تجربه شو داشتم من دارم بهت میگم اینجوری بهتره
این همه گفتی ازدواج لعنت چی شد؟
هنوزم میگم اون ول نمیکنه
اینقدر فکر درس و مدرسه نیست فقط یللی تللی
پدرش که اصلا عمرشو داده به شون آقای سامخانیان من موندم با دو تا بچه دستن
یعنی خیلی دلم برای خود تنگ شده جدی
ما یکی خوشمون بیاد چی؟
میشه این وسایل بچه ها رو هم یه دو سه روز جمع کنی جلوی چشم نباشه
بالاخره نمیخوان بفهمن من بچه دارم اونم دوتا؟
نه
Deuxième film qui sort en salle aujourd'hui à notre programme, Woman and Child de Saïd Roustaï. Il s'agit du quatrième long métrage du réalisateur iranien qui s'est fait connaître en 2001 avec La Loi de Téhéran, puis avec Leïla et ses frères. Alors ici, nous suivons une infirmière de 45 ans qui élève seule ses enfants alors qu'elle envisage de se remarier. Son fils est renvoyé de l'école et s'ensuit un tragique accident qui va bouleverser la vie de toute cette famille. Woman and Child a été présenté au dernier Festival de Cannes. Charles Bosson, un premier avis.
Eh bien, au risque de donner l'impression que je pense toujours la même chose des films. Je suis un peu déçu par ce cinéaste donc, que j'apprécie pourtant beaucoup et dont j'attendais à nouveau quelque chose. Et je trouve que on sent des choses qui se cristallisent, qui deviennent un peu répétitives et un aspect un peu de fable morale, un peu lourde, qui étouffe un peu ce film, malheureusement.
Charles Garçon.
Oui, il est doué pour des idées de mise en scène, quand même. Il faut lui reconnaître ça, Saïd Roustaï. Là, il n'y va pas de main morte sur le scénario, mais il faut parler aussi, sans doute, des conditions de production et de réalisation de ce film.
Allez-y, peut-être. Juste, on commence là-dessus et puis on revient sur le film après. Mais
oui, alors,
conditions. Ils ont créé d'ailleurs une polémique au Festival de Cannes.
Oui, mais en fait, moi, ça fait plusieurs années que j'ai un problème quand je vois des femmes dans des films iraniens qui portent le voile chez elles, puisque vous savez que ça n'est pas le cas. Alors, vous me direz pourquoi. Vous voulez un réalisme. Après tout, les conventions, on les connaît. Hein, à Hollywood, quand des acteurs parlent anglais alors qu'ils sont censés parler une autre langue, on ne fait pas tant de... Bon, et ben pourquoi? Parce que c'est une obligation de la censure. Donc, c'est pas n'importe quelle convention. C'est pas une convention esthétique ou publique pour un public américain, par exemple. Il faudrait que ce public entende parler anglais. Bon, donc là, c'est autre chose. Et du coup, ça, moi, ça fait vraiment plusieurs années que ça me pose problème. Mais voilà, ça s'est cristallisé à Cannes lorsque on a reçu un communiqué de presse de certains cinéastes indépendants iraniens dénonçant le fait que ce film ait été fait avec l'autorisation des autorités iraniennes.
Toutes les femmes sont voilées dans tous les plans, que ce soit dans leur chambre, seule, enfin, peu importe.
C'était le cas dans Leïla et ses frères également, qui se focalisaient sur la vie domestique d'une fratrie. Alors, vous me direz, mais c'est un détail. Ensuite, il y a tout un film. Alors, oui et non, parce que vous voyez bien que ce détail, aujourd'hui, on sait l'importance de la condition des femmes dans la dictature iranienne. Donc, ça n'est pas qu'un détail. L'autre problème, c'est que donc il pose les conditions de possibilité en fait de faire un film, valable dans sa critique sociale, alors qu'on se conforme à une certaine autorisation de l'État. Ça ne veut pas du tout dire que le film est une propagande pour cet État, pas du tout. C'est un film très critique, extrêmement critique, sur la condition féminine, puisque cette femme, de manière très lourde, est entourée de personnages qui, de l'âge de 13 ans à l'âge de 80 ans, puisqu'il y a un personnage de grand-père et un personnage d'adolescent et un personnage, son fiancé de son âge, c'est tous d'horribles phallocrates qui lui font des coups bas, des coups tordus à qui mieux mieux. Donc en fait, c'est très déroutant parce que le problème, c'est qu'un film, bon, je vais peut-être laisser parler Charles, mais un film, c'est narratif, en tout cas là, c'est le cas. Donc en fait, on se prend à se projeter dans les personnages, etc. Et on rentre dans une affaire de mœurs. C'est un mélodrame. Et comment, si on est censé considérer les personnages comme simplement des représentants, des personnifications du pouvoir dictatorial, eh bien, ça ne fonctionne pas. C'est le propos politique, à mon avis, ne fonctionne pas.
Charles Bosson, entrons dans le narratif justement de ce film-là. C'est un film sur la famille. Comment elle est filmée, cette famille ?
Alors, ça, c'est le grand talent de Roustaï depuis le début, depuis son premier film il y a 10 ans, en 2016, qui s'appelait Life Plus One Day. Je crois que c'est un film qui n'est encore pas distribué en France, qui est un film absolument formidable. On retrouve d'ailleurs deux des acteurs principaux de son dernier film, Woman and Child. Son grand talent, c'est de filmer la famille dans l'habitat de la maison. C'est-à-dire que c'est l'Iran, comme par exemple le Japon, c'est une autre manière d'habiter la maison, avec plusieurs générations, dans un espace, c'est une autre façon de la diviser. Et son talent assez extraordinaire, c'est de filmer comme une sorte de pieuvre, voilà, la famille, c'est-à-dire comme un espèce d'organisme polyphonique où tout le monde s'exprime, avec une dextérité qui n'est jamais théâtrale, parce qu'en même temps, il a une très grande maîtrise technique, il peut passer d'un visage à un autre à une vitesse stupéfiante. Et le drame commence toujours dans tous ses films, quand un de ses personnages, la plupart du temps le personnage féminin, dit « moi j'en peux plus, j'étouffe ». Et je vais essayer de sortir de cet organisme. Et à ce moment-là, elle est engluée, elle est collée par tout un espèce de pataquès, les frères, tous plus idiots ou imbéciles ou incompétents les uns que les autres. Et puis, il y a cette scène magistrale dans Leïla et ses frères, donc paradoxalement, de tout ce que vient de dire Charlotte, qui est une gifle. C'est-à-dire qu'à un moment, la fille renvoie une gifle absolument incroyable à son père en disant « les parents nous battent ou nous élèvent, eh bien, on aurait le droit à un moment de vous renvoyer quelque chose et de dire que vous avez été inconséquent, incapable. » Donc toute la société patriarcale tremble, se désintègre devant cette gifle. Donc c'est un cinéma très puissant qui commence ici avec une relation, à nouveau, j'ai pensé à quelque chose d'un peu 70s dans la relation d'une mère et de son fils. Quelque chose qui me fait penser presque à des Alice n'est plus ici, de Scorsese. Alors c'est pas tout à fait le même cinéma, mais on retrouve cette espèce de jubilation à montrer cette mère qui adore son fils et ce fils qui est un espèce d'agent de chaos. C'est-à-dire que partout où il va, il crée des accidents et notamment un extraordinairement cinégénique où il bricole un petit cadenas dans son école et ça bouche comme on bouche les artères, hein, c'est presque un monsieur Hulot et tout à coup ça crée, les élèves ne peuvent plus sortir et on a 700 enfants qui s'agglutinent. Donc voilà, cet enfant, quelque part, le récit doit s'en débarrasser puisqu'il ne fait que créer des accidents. Et donc, elle va, et là aussi la situation est géniale, pour rencontrer son nouveau potentiel mari, devoir cacher son existence, donc déjà le faire disparaître. Voilà, ça c'est la mise en place.
C'est aussi un film film beaucoup sur ce qui est caché, sur la dissimulation quand même.
Absolument. Et c'est voilà, cette première dimension du film, cette façon de cacher, qui va avoir des effets tragiques sur le récit qu'on va évidemment pas raconter, elle est assez passionnante. Le problème, c'est qu'ensuite le récit se retourne un peu contre elle et que là, on tombe dans une fable qui me semble plus moralisatrice, plus balisée. On va chercher à montrer les effets de cette société patriarcale sur l'héroïne en l'hystérisant, en allant presque dans le registre du film fantastique. À un moment, elle apparaît, elle est quasiment transparente et un effet de jump scare. Voilà. Cette dimension-là m'a semblé beaucoup plus convenue, beaucoup plus balisée, et elle m'a semblé faire plonger le film dans quelque chose de plus ennuyeux, tout simplement aussi.
Peut-être un mot, Charlotte, sur sa façon de filmer les visages. Les filmages sont très... Vous parlez d'hystérisation, mais il y a parfois des visages, des gros plans sur cette mère, sur cette femme, qui sont assez impressionnants.
Oui, et c'est le point d'empathie, enfin, qui est, voilà, on est entre une mise à distance par quelque chose de l'ordre du masque, presque, et donc de l'aspect fable du film, des personnages qui vaudraient pour autre chose, et puis, au contraire, notre envie en tant que spectateur de nous projeter de manière beaucoup plus psychologisante, je dirais. Pour moi, il négocie assez mal, en fait, ce point de bascule, entre avoir une distance nécessaire pour réfléchir et puis être happé par l'extrême. Alors, on dit mélodrame parce qu'il y a des choses dramatiques qui arrivent, mais en réalité, le mélodrame s'attache à parler de la violence sociale. C'est toujours ça, un mélodrame. Les gens sont pris, sont tiraillés parce que par des problèmes de classe. Sauf que là, c'est un autre degré de violence que dans le mélodrame, parce que, je pense, on est dans une situation dictatoriale. Or, ça n'est pas dit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de non-dit qui pèse sur le film, qui est politique, qui est la politique. Et pour moi, je pense que la politique, à un certain moment de l'histoire, et aujourd'hui, par exemple, elle ne peut pas être métaphorisée. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment, que ça passe par le fait que cette femme, elle souffre tout ça, au fond, parce qu'il y a une situation de sexisme d'État. Et ça, évidemment, il ne peut pas, et on ne peut pas lui l'en blâmer, il faudrait qu'il s'exile. C'est pour ça que je dis qu'il n'a pas les conditions de possibilité de faire un film autre que le film d'un enfant, comme son personnage, d'un adolescent, qui bricole un petit cadenas et qui bloque tout le monde. Et pour moi, c'est exactement sa définition de la mise en scène, malheureusement.
Il reste quelques secondes, Charles Bosson, mais peut-être sur cet enchaînement de catastrophes, sur le scénario. Vous l'avez trouvé crédible?
Alors, pas tellement. Je sens qu'il y a... Alors, à nouveau, on pense à Marty Suprême, par exemple, qui est un film qui avance de catastrophe en catastrophe et d'accident en accident, là où celui-là devient beaucoup plus balisé. Et vous parlez des visages. Dans ses premiers films, les visages disent vraiment quelque chose. Là, on sent que par moments, il plonge dans le visage de ses acteurs, qu'il les fait jouer le regard, mais pas grand-chose ne passe. Les grands moments de Saïd Roustaï, c'est quand même ce moment, par exemple, où on surprend dans une ambulance une famille qui dort, qui n'a pas les moyens de se loger et qui dort. On pense d'abord que ce sont des cadavres. Un peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la loi de Téhéran, l'image des drogués, des bidonvilles qui dormaient dans ces tubes cylindriques de chantier de rénovation. Voilà, quelque part, il arrive de temps en temps à filmer de manière presque néo-réaliste, comme un accident, des éclats de cette société qui souffre.
Woman and Child de Saïd Roustaï sort en salle aujourd'hui. Merci beaucoup à tous.
Merci.
Les deux, Charles Bosson et Charlotte Garçon. Vous pouvez réécouter, bien sûr, cette émission comme toutes les autres sur le site de France Culture, et toutes les références de ces trois films sont sur la page des Midi.